Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le syndicalisme, s'il y a bien une réalité de la vie sociale qui n'a pas bonne presse dans certains milieux, y compris chrétiens, ce sont les syndicats, vus par beaucoup en France comme des conservateurs sociaux ou comme la courroie de transmission de mouvements politiques, pays qui a une vraie culture de l'affrontement et dans lequel l'on manifeste sans trop de scrupules, le syndicalisme n'a pas toujours bonne presse. Que dit la doctrine sociale de l'Église du syndicalisme? Le croit-elle légitime? Si oui, à quelles conditions et selon quelles modalités? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce matin pour notre émission sur la vie d'entreprise. Vie d'entreprise et syndicalisme, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. L'un de nos rendez-vous, en partenariat, je le rappelle, avec les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et le MCC, mouvement chrétien des cadres et dirigeants. On retrouve ce matin Bernard Ribal, presque chroniqueur à Radio Présence, agrégé docteur en philosophie et conseiller spécial du président de la CFTC. Bonjour.
Bonjour.
Patrick de Persin, vous êtes délégué syndical central CFE-CGC, membre du MCC, Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez il n'y a pas très longtemps à cette antenne. Et Alexis de Larupelle, vous êtes agent général chez Alliance président régional d'un syndicat de professionnels qui s'appelle MAC3 et membre donc des EDC. Bonjour.
Bonjour.
Avant de se lancer dans notre partie théorique d'introduction sur la doctrine sociale de l'Église, puisque le propos à chaque fois, je vous rappelle, chers auditeurs, c'est de faire un peu un point sur le thème du jour, à propos du thème du jour, sur ce que dit la doctrine sociale de l'Église, puis d'essayer de voir un peu les pratiques professionnelles des uns et des autres, avant de finir par des coups de cœur et des coups de gueule d'actualité. Comment vous réagissez à mon introduction? Est-ce dur, Patrick de Persin et Alexis de Larupelle, d'être engagé syndicalement ou d'être engagé dans un syndicat? Est-ce que vous devez faire face à des critiques, des a priori?
Alors,
Patrick de Persin.
En interne, des critiques, non, parce qu'on est utile et que c'est à peu près reconnu. Par contre, en externe, c'est toujours une question. Quand on dit « mon métier, c'est syndicaliste », ça fait toujours rire ou sourire. Surtout quand à la base on est ingénieur, c'est pas forcément un choix de carrière, mais c'est un choix de vie aussi. C'est un choix de.
Un choix de vie, ça veut dire quoi, juste
Ça veut dire qu'on choisit non pas de privilégier sa carrière, mais de privilégier une action collective ou une action pour les autres.
Même question, Alexis de Larupelle, au début de cette émission. Est-ce que vous avez eu l'impression de prendre à rebrousse-poil une certaine culture familiale, sociale, en choisissant un moment de vous engager syndicalement?
Alors non, notre engagement, mon engagement est sur un syndicat professionnel. On a peut-être pas la même différence effectivement de point de vue externe. Et en interne, on a beaucoup de nos confrères qui sont plutôt remerciants pour le temps passé. Donc pas de critique.
Vous faites une distinction parce que syndicat professionnel, ça a une vraie différence avec.
Oui, c'est-à-dire que je pense que vis-à-vis de l'externe, j'ai pas la même vision que Monsieur De Saint qui lui a une culture ingénieur et de l'extérieur on a cette vision du syndicalisme que vous avez décrite qui est parfois un peu décriée.
Alors, pour l'Église, si j'ai bien compris, Bernard Ribal, ça n'a pas toujours été une évidence d'acter l'importance du syndicalisme. En tout cas, au tout début, il y a eu une vraie discussion au cœur de l'Église. Et il faut remonter pour ça donc à la fin du 19e siècle avec cette fameuse première encyclique sociale qu'on cite très souvent à cette en-tête, Rerum Novarum. J'ai compris qu'il y avait eu quatre rédactions différentes autour de la question du syndicalisme. Expliquez-nous pourquoi, avec un débat de fond autour de la question des corporations et du syndicalisme.
Oui, d'abord, pour bien comprendre, il faut rappeler, mais beaucoup le savent, que Rerum Novarum, c'est l'an zéro de l'enseignement social chrétien contemporain. Je dis bien contemporain, car l'an zéro, c'est l'Évangile. Mais l'an zéro contemporain, c'est cette encyclique assez inattendue à l'époque et qui ne sera pas du tout écrite, et ce sera étonnant, en langue de bois, par Léon XIII en 1891, puisqu'il commence son début, le début de l'encyclique, en disant par exemple qu'il faut remédier à, je cite, la misère de la classe ouvrière. Ça mérite le détour, parce que classe ouvrière est une expression marxiste, et Léon XIII le savait très bien, bien entendu. Ça, c'est le début. Et ce n'est qu'à la fin, alors évidemment, je saute beaucoup là, hein, ce n'est qu'à la fin de l'encyclique qu'il va parler des syndicats. Et c'est bien la première fois qu'on aborde cette question officiellement dans l'Église.
Et que le terme est utilisé, c'est ça?
Et que le terme est utilisé. Mais très nettement, Léon XIII préfère la corporation, c'est-à-dire un seul corps intermédiaire, un seul organisme qui rassemble à la fois employeurs et employés.
Alors est-ce que vous pouvez repréciser, parce que c'est important de le dire, les corporations étant été abolies, si je ne me trompe pas, au moment de la Révolution française.
Voilà, par la loi Le Chapelier, en 1791, les syndicats et corporations ont été abolis.
Alors qu'est-ce que c'était précisément que ces corporations, qu'on comprenne bien peut-être la différence avec les syndicats modernes?
Alors, les syndicats modernes, on le sait, on le voit, sont divisés en deux groupes, les syndicats patronaux, par exemple le MEDEF, PME, l'UPA, enfin bon, syndicats patronaux, et puis il y a les syndicats salariaux, CGT, CFTC, CFDT, je ne vais pas les citer tous. Alors que le propos de Léon XIII, c'est de dire, non, il vaudrait mieux que ce soit comme dans l'Ancien Régime, qu'il y ait les employeurs et les employés qui discutent ensemble au sein d'un même organisme. L'avantage étant, oui.
C'était donc le cas dans les corporations, voilà, patron.
C'est ce qu'on appelait les corporations. Voilà. Et il va tenter de promouvoir ça avec quelques réseaux, mais ça va pas vraiment être un immense succès. Pourquoi corporation? Quel est l'intérêt en termes de spiritualité, en termes de morale sociale chrétienne? C'est que pour Benoît XVI, il s'agit d'insister sur le bien commun.
Pour Léon XIII.
Pour Léon XIII. Il s'agit d'insister sur le bien commun, et même encore, fort heureusement, en 2019, l'insistance est toujours mise sur la notion de bien commun. Même si, à partir de Octogesima Adveniens, une encyclique qui vient 80 ans après Rerum Novarum, le Vatican finit par accepter, mais on est quand même au XXe siècle, là, hein, largement entamé, hein, on est en 1971, le Vatican finit par accepter l'existence de syndicats salariés autonomes, et non plus de corporation, tout en regrettant quand même, il y a une ligne où dans cette encyclique, il regrette quand même qu'on puisse pas faire les corporations toujours au nom de au nom du bien commun.
Bernard Ibal, j'avais une question sur le fond. Si j'ai bien compris, à l'occasion de cette encyclique, il reconnut donc l'association comme un droit naturel. Et puis j'ai lu ce passage, enfin en tout cas une citation à propos de Rerum Novarum. Selon Rerum Novarum et toute la doctrine sociale de l'Église, le caractère social de l'homme ne s'épuise pas dans l'État, mais il se réalise dans divers groupes intermédiaires, de la famille aux groupes économiques, sociaux, politiques, culturels, qui découlent de la même nature humaine. Bref, ça aussi, c'est peut-être important de le rappeler, le fond de la pensée chrétienne, ça n'est pas une pensée étatiste.
Pas du tout. Et on a été d'actualité il y a à peine un mois, on est toujours d'ailleurs, avec la loi Pacte. C'est quand même pas si courant qu'un aspect de la loi, je ne dis pas la totalité de la loi, hein, parce que c'est la loi Pacte, c'est l'auberge espagnole. Hein. On parle aussi bien de la finalité de l'entreprise que de la vente par l'État de l'aéroport de Paris. Donc des choses extrêmement différentes. Alors, je ne dis pas que toute la loi Pacte relève d'une inspiration sociale chrétienne, mais je dirais que l'aspect finalité de l'entreprise relève explicitement, pas, l'État ne dit pas que ça vient de là, mais le rapprochement est évident avec ce que répètent les évêques, le pape, les chrétiens engagés depuis déjà très longtemps, à savoir que la finalité de l'entreprise ne peut pas être simplement le profit, c'est bien le profit, mais c'est pas seulement le profit, que la finalité de l'entreprise, je cite la loi, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et sociétaux de son activité.
Alors ça, c'est ce qui va être mentionné normalement dans la loi Pacte.
Oui.
Il faut redire ce que dit le Code civil. Jusque-là, c'était simplement « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés ».
Oui.
Alors vous y voyez une patte de la doctrine sociale de l'Église.
Oui, d'autant que les juristes, il y a une exception là, chez les juristes. Les juristes, généralement, sont très objectifs. C'est très précis, les mots ont un sens qui n'est pas un sens vague, mais un sens rigoureux. Or, il y a une expression latine qui est très subjective et qui fait force de loi. C'est l'affectio societatis. L'affectio societatis, c'est le fait que dans une société, y compris donc une société de capitaux, une société où il y a les propriétaires d'une entreprise, par exemple, chaque sociétaire, chaque associé, doit respecter un minimum de bonne volonté, toujours subjectif, donc, en vue du bien commun, affectio societatis. Et s'il ne le fait pas, le tribunal peut l'exclure de la société. C'est prévu par la loi.
Mais alors pourquoi ? Quel rapprochement avec la doctrine sociale de l'Église, pour ceux qui n'en sont pas familiers ?
Le rapprochement, c'est que l'affectio societatis, c'est bien l'idée de la doctrine sociale de l'Église, sauf qu'elle ne doit pas être restreinte aux seuls actionnaires. L'affectio societatis doit s'étendre à l'ensemble de la société, au nom de, par exemple, la destination universelle des biens, qui fait que la propriété n'est pas simplement pour l'intérêt de celui qui est propriétaire, mais la propriété est aussi en vue du bien commun, en vue de l'ensemble de la société. Et donc s'il doit y avoir un affectio societatis, et c'est bien l'idée de la doctrine sociale de l'Église, il ne peut pas rester enfermé uniquement pour les propriétaires, il doit s'étendre à l'ensemble des ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes.
Bernard Hibal, vous vouliez aussi insister sur le fait qu'il y a une logique chrétienne dans le syndicalisme, en tout cas en termes de négociation, vous me disiez ça en préparant l'émission, c'est la négociation d'abord, la médiation ensuite et la grève s'il le faut. Et vous me disiez qu'en France, on était loin du compte, on avait tendance peut-être à partir de la fin en sautant en plus la médiation.
Oui, oui.
Expliquez-nous cette logique négociation, médiation, grève, est-ce que ça figure aussi dans les encycliques sociales ?
Alors, effectivement, quand on lit les encycliques, c'est bien la déontologie qui en découle. Seulement, il faut lire plusieurs encycliques pour avoir la phrase en entier. Mais l'idée de négociation d'abord est bien dans les encycliques, c'est l'idée de dialogue, l'idée de médiation pour compléter les dialogues difficiles et conflictuels est aussi mentionné, davantage d'ailleurs chez les évêques que chez les papes, mais enfin, peu importe. C'est surtout en Espagne que la médiation fonctionne. Elle fonctionne très bien en Espagne, là, pour prendre un pays à côté, parce qu'il y a d'autres pays où ça fonctionne aussi. Mais pour prendre un pays proche, en Espagne, la médiation fonctionne. En France, il y a au journal officiel, personne ne sait ça, au journal officiel de la République, est énoncé clairement les médiateurs sociaux désignés. Il suffit d'aller épuiser, mais personne ne va épuiser. Et ce qui est le plus fréquent, mais pas forcément chez tous les syndicats, aujourd'hui les syndicats réformistes en France sont majoritaires. C'est plus les syndicats contestataires qui sont majoritaires. Mais chez les syndicats contestataires, effectivement, c'est souvent la grève d'abord, et non pas la négociation d'abord, la médiation impasse, la négociation après, et la médiation parfois, mais par le préfet. Pour l'appeler au secours. Il n'y a plus que le préfet qui est... Alors qu'il n'est pas, censé être dans la liste des médiateurs dont je parlais à l'instant. Toujours dans la déontologie du syndicalisme chrétien, d'après les encycliques, les syndicats doivent être non politisés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fassent pas de politique. Forcément qu'un syndicat fait de la politique économique et sociale.
Il faut qu'il y ait une cloison étanche avec les partis politiques.
Voilà,
c'est ça,
les cloisons étanches avec l'électoralisme et les partis politiques. Il y a aussi une insistance des encycliques sur la paix sociale. Il faut tendre vers la paix sociale et non pas vers la lutte des classes. Il y a une dénonciation très forte, y compris dans Rerum Novarum, de la lutte des classes. Et j'ajouterai quand même pour les auditeurs, et pour peut-être le débat, une nouveauté de François, le pape actuel, qui parle, lui, dans Laudato si, et je cite le paragraphe, parce qu'il faudrait y revenir, c'est le paragraphe 179, et 181 aussi, enfin 179 surtout, il fait appel, c'est assez inattendu, à la pression de la population. C'est-à-dire que, finalement, le syndicalisme ne suffit pas. Et il le dit, d'ailleurs, hein. Le syndicalisme ne suffit pas parce que...
La pression de la population, c'est quoi, Bernard Hébal? C'est les manifestations? C'est les
Alors,
grèves?
Voilà. Ça m'oblige à une toute petite explication, effectivement. Ce qu'il entend surtout par pression de la population, c'est le fait que la population se mette elle-même à créer de l'économie, à créer de la richesse. Par exemple, le microcrédit, par exemple. C'est d'abord ça. Mais c'est aussi... La manifestation de rue. C'est aussi la manifestation de rue. Et
vous insistez dessus, pourquoi? Parce que c'est une nouveauté? Parce que jamais un pape n'avait dit ça?
Jamais un pape n'avait dit ça. Et c'est même assez prophétique de ce que seront les Gilets jaunes. Alors, je ne dis pas que les Gilets jaunes sont à 100% là. Dans la morale sociale chrétienne, loin de là, surtout si on met les violences au compte des Gilets jaunes. Mais c'est vrai que les Gilets jaunes, c'est ce mouvement de pression de la population qu'annonce quand même le pape François bien avant, quelques années avant que ça se produise.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer la discussion, entre autres en faisant état donc des pratiques professionnelles des uns et des autres, éventuellement des réactions à ce qui a été dit là. On vous retrouve dans quelques minutes.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vie d'entreprise et syndicalisme, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, émission en partenariat avec les EDC et le MCC. Autour du plateau, Bernard Hébal, agrégé docteur en philosophie, conseiller spécial du président de la CFTC, Patrick de Persin, délégué syndical central CFE-CGC, membre du MCC, et Alexis de la Rupelle, agent général chez Alliance et président régional de MAC3, syndicat professionnel, membre des EDC. J'avais une question. Allez, en introduction, je vais vous lancer là-dessus. sur la fameuse loi Pacte, parce que on imagine que quand on est chrétien et engagé syndical, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle définition, donc dans le code civil, on l'espère demain, de l'objet social de l'entreprise. Je rappelle que Bernard Hébal expliquait tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés, et demain serait ajoutée la société gérée dans son intérêt général en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. C'est en plus ou à la place, Bernard Hébal?
C'est en plus.
En plus. Est-ce que c'est des choses dont on parle, par exemple, Patrick Depersin, quand on est syndicaliste, on ne dira pas forcément où, même si vous êtes déjà passé à cette antenne, on en parle entre syndicalistes chrétiens ou...
On parle de l'intérêt social de l'Église, oui, on parle de... Et il y a beaucoup d'actions qui sont en cours sur... rendre donner une entreprise une vocation plus sociale, plus verte, tout ça, ça existe. C'est une tendance des dernières années. Il y a des actions.
On se réjouit du coup de la possible modification du code civil sur ce sujet ou...
Oui.
Vous avez l'air hésitant.
C'est assez loin en fait de la pratique qu'on a. Il y a dans la pratique qu'on a au quotidien du syndicalisme qui est pas très connu. Il y a la tension auprès des salariés. C'est quelque chose qu'on voit pas. Tout le monde parle des grandes grèves ou des grands sujets. Le quotidien d'un syndicaliste, c'est effectivement ce genre de négociation. Rendre une entreprise plus verte, rendre une entreprise plus sociale. Bien sûr, ça fait partie des choses. Mais le quotidien du syndicaliste, il est auprès des salariés.
Vous dire que le quotidien, c'est pas de réfléchir constamment à la mission de l'entreprise, c'est ça?
Oui, c'est s'occuper de...
Maintenant, ça peut vous aider quand même.
Bien sûr, tout ça peut aider. Il y a des tas de choses qui peuvent aider, à peut-être plus ou moins long terme.
Alexis de la Rupelle, est-ce que c'est des choses... Alors, les EDC, ça n'est pas un syndicat chrétien, mais quand on est entrepreneur et dirigeant chrétien, on peut imaginer que c'est une chose importante, que cette possible modification qui va intervenir dans la loi PAC, c'est des choses dont on parle entre entrepreneurs et dirigeants chrétiens?
Oui, c'est une notion pour nous assez importante, d'abord parce que le bien commun est une notion que nous portons, parce qu'on considère qu'effectivement, dans une entreprise, faire de la marge est une nécessité, elle est nécessaire pour l'investissement, on croit au capitalisme vertueux, et puis parce que le bien commun, c'est toute cette idée que l'entreprise n'appartient pas uniquement à ses associés, mais à tous ceux qui sont dépendants de cette société, dont les salariés, et que ce bien commun est centré sur le perfectionnement de chacun, et qu'il est régulé notamment par la gratuité d'entreprise et par la charité. Donc pour nous, c'est effectivement une notion assez importante, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Bernard Hébal sur le sujet, parce que ça a du sens et c'est une notion qui est ancienne et qui revient à l'ordre du jour.
Et on peut dire aussi que cette possible modification donc du code civil fait suite à un rapport qui a été remis donc par Jean-Dominique Sénard et Nicole Nota. Jean-Dominique Sénard étant connu quand même pour être un patron chrétien, même si ça n'est pas un syndicaliste. Alors, charge à vous donc de nous dire comment on vit le syndicalisme comme chrétien. On va commencer avec vous, Patrick Depersin. Vous disiez, il va falloir atterrir. Alors, on a bien compris que vous nous expliquiez que le quotidien du syndicaliste, c'est pas forcément d'avoir en tête toutes les encycliques sociales des papes. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager de votre pratique dans votre entreprise? Qu'est-ce qui a fait écho dans cette première partie? Et qu'est-ce que vous voudriez nous partager de votre activité?
Je dirais que ce qui fait écho, c'est bien sûr tout à l'heure on parlait de passer par la négociation d'abord, puis la médiation, ça c'est dans les encycliques. Négociation, médiation et grève, oui. Je dirais que chez nous, on pratique plutôt négociation, négociation et puis négociation encore jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. C'est-à-dire que la médiation, j'ai jamais vu tellement qu'on en ait eu besoin. La grève.
Vous connaissez son existence en tout
oui,
cas.
Oui, bien sûr.
Je vous ai vu réagir quand Bernard Ribal disait que c'était publié au journal officiel, vous le saviez, ça.
Oui,
c'est...
ça, c'est... bien sûr. Et on le voit dans certains cas, on l'a vu dans certains grands conflits très médiatisés, on a vu des médiateurs intervenir. Mais il faut en arriver. En fait, effectivement, comme disait Bernard Ribal, c'était au moment où il y avait la grève qu'on faisait appel à un médiateur. C'est donc il y avait une inversion dans l'ordre. Je pense que la grève, moi personnellement, en tant que syndicaliste, je l'ai très très peu faite. C'est parce que on est chez nous, dans notre syndicat, vraiment focalisé sur la négociation et arriver à un accord. Pousser les négociations au maximum. Et ça, c'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt parce que, dans ce cas-là, il n'y a pas de perdants. Il n'y a que des gens qui se sont mis d'accord. Et donc, derrière, on peut repartir sur quelque chose de positif.
Alors, Patrick de Persin, j'avais peut-être une autre question. C'est que quand on précisait au début de l'émission que pour l'Église et la doctrine sociale de l'Église, donc les syndicats font partie des corps intermédiaires indispensables en fait à la vie d'une société, hein, comme d'autres que sont la famille et d'autres groupes sociaux ou culturels. Est-ce que c'est perçu comme ça dans une grande entreprise comme la vôtre ? Est-ce que le syndicalisme, dans le fond, on le voit comme un échelon nécessaire à la vie sociale et à la vie de l'entreprise ?
Alors, mon entreprise a une grande chance parce que oui, on peut répondre que oui. C'est-à-dire qu'il y a une culture du syndicalisme, une culture du dialogue social dans mon entreprise qui est...
Puisque vous en dites du bien, on peut quand même dire votre entreprise.
Oui, c'est
voilà.
Airbus.
Vous êtes chez Airbus.
Voilà, je suis chez Airbus. J'en dirais peut-être pas que du bien, donc c'est pour ça. Mais le dialogue social est ancré presque dans l'ADN. Et alors après, ça se passe plus ou moins bien.
Est-ce que ça tient au fait que c'est aussi une entreprise internationale d'une certaine manière ? Est-ce que ça contribue à avoir une culture syndicale, vous croyez,
La réponse est oui, en partie. Moi, je connais plutôt le syndicalisme français. L'origine d'Airbus, c'est il y a plusieurs sociétés, dont Aérospatial, qui était une grande entreprise nationale dans le temps, avec une grande culture syndicale. On a hérité de cette culture et on l'entretient.
Alexis de la Rupelle, peut-être pouvez-vous commencer par nous présenter ce syndicat qu'on connaît probablement moins, MAC3 en quelques mots, ce syndicat professionnel ?
Oui, alors MAC3 c'est un syndicat professionnel qui regroupe les agents généraux Alliance qui sont profession libérale et qui ont un agent général d'assurance, c'est une profession réglementée et qui sont gérés par un mandat contractuel entre leur mandante Alliance et leur propre entité.
Donc c'est un syndicat professionnel uniquement lié à une entreprise, en fait.
Exactement. C'est-à-dire qu'on est un peu moins de 2000 agents généraux Alliance en France et on s'est fédéré sur une union professionnelle pour pouvoir discuter avec notre mandante sur les sujets qui nous importent au quotidien.
Alors, présentation faite, qu'est-ce qui vous vient comme réaction à cette introduction qu'a fait Bernard Ribal sur ce que dit l'Église ou comment s'est construit le discours de l'Église autour du syndicalisme ?
J'y vois pas mal de redondance, c'est-à-dire que je faisais allusion tout à l'heure au bien commun auquel Bernard Ribal y a fait allusion aussi. Pour nous, c'est effectivement assez important. C'est-à-dire que nous n'avons pas les gens qui sont bénévoles au sein de cette union professionnelle n'ont qu'un objectif, c'est-à-dire faire avancer leur métier, faire avancer leur profession. Donc un certain altruisme, puisque ça se fait parfois au détriment de leur propre activité et de leur propre structure. L'objectif étant d'apporter à leur métier, une pérennité et une transformation positive demain.
Est-ce que vous pourriez prendre un exemple pour que ça soit plus parlant de choses que vous êtes en train aujourd'hui de négocier ?
Oui, les exemples sont nombreux. On est en train de négocier en ce moment, on a des négociations sur l'évolution des contrats que nous proposons pour pouvoir apporter, être plus performant et donc avoir une pérennité d'activité demain. Et en parallèle, on est en négociation aussi sur toute une migration informatique sur lequel nous discutons pour qu'elle soit efficace, stabilisée et qu'elle corresponde à notre métier de demain.
Voilà, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui est à la fois patron et en même temps engagé syndicalement. Est-ce que c'est des choses fréquentes, Bernard Ebal, vous qui avez peut-être une vue d'ensemble comme ça sur le syndicalisme ?
Il y a des syndicats patronaux et il faut y insister, quoi. Hein. Je veux dire par là qu'il n'y a pas les syndicats et les employeurs, il y a les syndicats d'employeurs et les syndicats salariés. Le MEDEF est un syndicat. Hein, le syndicalisme n'est pas que le syndicalisme salarié. Ce que je peux rapidement rajouter, c'est que ce qui est très sensible aujourd'hui, surtout dans les grandes entreprises, mais aussi dans les moyennes, c'est que le top manager qui change de nom, c'est pour ça que je dis top manager, il change de nom en fonction du statut de l'entreprise. Hein. Ça peut être le PDG, ça peut être le directeur général, le délégué général, peu importe. Le top manager est aujourd'hui pied et poing liés des actionnaires et des seuls actionnaires. Et ça, Laudato si le dénonce très fort à travers la dénonciation du paradigme techno-économique, selon l'expression du pape, parce que ça entraîne, y compris par exemple chez Airbus, ça entraîne une tendance au court terme. Très souvent dans les grandes entreprises, alors pas forcément Airbus, mais dans les grandes entreprises, le premier réflexe d'un cadre supérieur, pas forcément un cadre dirigeant, hein, un cadre supérieur, qui entre dans son bureau le matin à 9h, c'est de regarder sur son ordinateur les cours de la bourse. Et on peut l'observer concrètement, ça. Hein. C'est la première chose qu'il fait. On voit bien que ce court-termisme et un handicap très grave des stratégies à long terme.
Alors le lien avec le syndicaliste, c'est quoi ? C'est qu'il y a comme un plafond de verre, c'est-à-dire qu'on peut avoir en fait une vie d'entreprise avec des activités syndicales,
oui.
Mais il y a un plafond de verre que ne passe pas cette vie syndicale, c'est ça que vous voulez dire ?
Et les syndicats voient bien dans ce qu'on appelait jusqu'à présent les comités d'entreprise, qui s'appellent maintenant conseils d'entreprise, enfin peu importe, ils voient bien, les syndicats voient bien qu'il y a des projets qui sont abandonnés alors que c'est de bons projets. Mais ils sont abandonnés parce qu'ils ne rapportent pas assez vite. Ils ne donnent pas assez vite de dividendes. Il y a une sorte de colonisation de l'économie réelle par l'économie casino, l'économie boursière, l'économie spéculative, qui est un marché de l'occasion. Hein. La bourse est un marché de l'occasion. On vend des choses qui existent déjà, c'est un marché de l'occasion. Et la volatilité des capitaux est un grand changement entre le 20e et le 21e siècle. Au XXe siècle, des gens comme monsieur, et alors lui, il continue à son échelle.
Monsieur, c'est Alexis de la Rupelle. Hein.
Voilà, j'avais du mal à...
Juste que vous le montrez du doigt et que les auditeurs ne le voient pas.
Monsieur Alexis de la Rupelle est tout à fait dans ce cas-là. Les patrons défendaient bec et ongles leur entreprise. Quand elles étaient en difficulté, ils continuaient à se battre pour qu'ils la relèvent. Aujourd'hui, à l'échelle des moyennes et des grandes entreprises, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, dès qu'une entreprise a une rumeur que peut-être un jour, dans un an, deux ans, ça irait moins bien, les capitaux s'en vont.
Alors, on va lui donner la parole, puisque vous le montrez du doigt, en tout cas vous le désignez. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez ce sentiment dans vos activités, et si c'est oui, dans vos activités, qu'il y a une forme de maladie au cœur même de la vie de l'entreprise et que l'activité syndicale n'arriverait pas à percer un plafond de verre comme ça, Alexis de la Rupelle ?
Alors, oui, nous, on est dans une structure un peu particulière, puisqu'on est dans un syndicat professionnel qui discutons avec une entreprise assez importante, Allianz France, qui est une filiale d'un groupe international. Donc on se retrouve effectivement avec des interlocuteurs qui ont certainement des comportements évoqués, avec un premier réflexe du matin qui, j'en doute pas, sont câblés sur les cours de bourse, avec un actionnaire à rentabiliser. Nous-mêmes, nous sommes entrepreneurs et nous pensons qu'effectivement, le long terme a beaucoup plus de sens. J'aime beaucoup la notion de marché l'occasion pour la bourse, parce qu'effectivement, la bourse ne connaît que ce qui est déjà vécu. Et là où nous pensons que l'investissement à long terme a beaucoup plus de sens.
Vous êtes en train de nous dire, pardon, moi je suis un néophyte hein, du monde de l'assurance, mais c'est vrai que l'assurance, comme la banque, n'a pas toujours... très bonne presse, vous êtes en train de nous dire, vous êtes un groupement d'indépendants qui travaillait en fait à faire entendre au groupe que vous représentez, qu'il faut essayer d'avoir des stratégies moins court-termistes et moins liées justement à la finance. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ?
Oui, tout à fait, et on y arrive. C'est-à-dire que on a, j'ai noté hein, la notion de corporation qui avait été abolie effectivement par la Chapalier, et on arrive potentiellement par discussion à avoir un équilibre, parce que malgré tout, l'entreprise appartient à des actionnaires qui souhaitent une rentabilité. Hein. L'actionnaire, faut pas oublier que c'est tout interlocuteur qui nous écoute et qui a un petit panier d'actions. Donc chacun est responsable de ça, et nous arrivons à avoir une discussion pour pouvoir avoir un équilibre entre cette rentabilité-là et une vision beaucoup plus long terme qui satisfait tout le monde.
Par la négociation, par la médiation, mais pas par la grève.
Alors, moi, je pratique des sports de combat, et pour autant, je ne me bats pas. C'est-à-dire que je considère que lorsque l'on met un coup de poing dans la figure, c'est un échec. Donc, nous pratiquons pas, effectivement, c'est un peu violent ce que je dis, mais nous ne pratiquons pas la grève. Je considère que c'est effectivement un échec. Donc, on est toujours dans le dialogue, avec parfois des mesures de, comment dire ça, de discussions un peu plus fortes et plus animées que d'autres, mais effectivement, nous ne sommes pas usagers de la grève.
Patrick de Persin, est-ce que vous avez une réaction à ce qui a été dit, ou on peut sinon aborder un autre sujet hein ?
Non, je pense que en fait, ce lien entre les dirigeants et les actionnaires, il est en dérive, c'est-à-dire que de plus en plus on est court-termiste, et donc l'intérêt des dirigeants est beaucoup moins. Enfin, en tout cas, c'est vrai dans les très grandes entreprises comme la mienne, et devient de moins en moins pour l'intérêt de l'entreprise et de plus en plus pour le court terme, le cours de bourse et le rendement financier qu'on doit servir aux actionnaires. Ce qui pose des problèmes en interne, puisqu'on augmente la pression interne, et ce qui fait que nous, on est obligés de réagir pour protéger les salariés.
Et c'est quelque chose dont les salariés ont conscience, il n'y a pas que les délégués syndicaux, c'est...
Ah, oui, oui, de toute façon, nous, on le dit dans les tracts, on le dit et on le clame partout, et notre politique générale syndicale, elle est notamment d'essayer de s'approcher le plus possible des conseils d'administration, voire d'y pénétrer et de participer au conseil d'administration pour pouvoir introduire la notion des salariés et des employés, leurs intérêts, au sein du conseil d'administration et pas les laisser à la porte.
Alors pardon, pour ceux qui sont moins familiers de la vie d'entreprise, de la vie syndicale, est-ce que ça veut dire qu'il y a cette espèce de plafond de verre ? C'est-à-dire que là, vous laissez entendre que vous n'avez pas forcément votre place. Les syndicats n'ont pas leur place, en fait, dans les décisions du top management.
C'est difficile, oui.
C'est pas Bernard Ribal, ça fait pas du tout partie des dispositions normales.
Il n'y a pas que la loi française, mais restons en France. Dans la loi française, une entreprise, c'est d'abord une société de capitaux. Ce n'est même, du point de vue du code civil et du code commercial, ce n'est qu'une société de capitaux.
Alors, si,
il y a que le code du travail qui élargit un peu l'idée d'entreprise, mais sinon le code civil n'en fait qu'une société de capitaux. Et il y a aujourd'hui sur la table des dizaines de propositions de réforme, non pas pour renverser le capitalisme. L'Église a toujours été favorable à la propriété privée, y compris des moyens de production et d'échange, parce que c'est la seule façon d'encourager l'initiative et de diviser l'initiative, de la rendre plurielle et non pas simplement monolithique au sein de l'État. Mais ceci dit, sans renverser le capitalisme, il y a plusieurs propositions qui sont faites pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas que la pression des actionnaires sur le top manager. Je ne vais pas me lancer dans l'une ou l'autre de ces...
Mais ce qui veut dire, Bernard Ribal, que si la loi Pacte acte ce changement de l'objet social de la vie de l'entreprise, on peut imaginer demain que des syndicats participent directement aux décisions qui concernent la vie de l'entreprise ?
Oui, en ce moment, ils le font un peu, mais très peu, au travers de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, où là, de façon assez informelle, on discute de l'environnement, on discute de la diversité, hein, au sens qu'il n'y ait pas de discrimination à l'emploi, par exemple. La RSE a permis d'étendre un peu la possibilité d'expression non seulement des salariés, mais aussi de la clientèle, des fournisseurs, enfin tout ce qu'on appelle les parties prenantes de l'entreprise. Mais ça reste très informel. Ce qui est formel, ce sont les IRP, les institutions représentatives du personnel. Et là, dans ce cadre-là, même avec la réforme là, qui transforme les comités d'entreprise en conseils économiques d'entreprise, même dans ce cadre-là, les salariés n'ont pas la possibilité de contrebalancer le pouvoir des actionnaires.
Alexis de la Rupelle, vous vouliez intervenir, après on va faire une pause rapide.
Oui, je trouve que ce qui est important, c'est que dans l'entreprise, un des principes qui prévaut, et dans notre dimension chrétienne, je pense qu'elle a du sens, c'est le principe de subsidiarité. Et dans ce principe de subsidiarité, on y voit évidemment une délégation de responsabilité qu'un manager va tout de suite aborder, mais on y voit aussi le fait que on s'interdit de confier aux plus aptes la totalité des tâches. Et c'est-à-dire qu'il faut ne pas écarter les plus faibles. Et là, on revient dans une discussion qui est...
Quel est le rapport juste avec ce qu'on est en train de dire ? C'est pourquoi vous faites cette remarque ?
Parce qu'à partir du moment où on a une vision qui est uniquement capitalistique de l'entreprise, elle est nécessaire. L'entreprise, elle doit avoir des capitaux, elle doit créer, on l'a vu tout à l'heure, de l'investissement. À partir du moment où on a des managers qui sont effectivement actés sur du court terme parce que primes variables liées à un chiffre d'affaires, à un résultat net d'une entreprise, on peut à un moment donné s'accentuer vers une population dans l'entreprise et laisser de côté tout un pan de population. Or, je pense que la dimension chrétienne de nos, des interlocuteurs qui sont là et le rapport qu'on en fait avec l'entreprise, c'est justement de réinsérer ce pan de population, c'est-à-dire les moins aptes, pour leur redonner une place dans la société qui est l'entreprise.
On va faire une rapide deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour vos coups de cœur et vos coups de gueule en lien avec l'actualité économique et sociale.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vie d'entreprise et syndicalisme, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin avec Bernard Ribal, qui est entre autres conseiller spécial du président de la CFTC, Patrick de Persin, délégué syndical central CFE-CGC chez Airbus, et Alexis de la Rupelle, qui est agent général chez Allianz et président régional du syndicat professionnel MAG 3. Dans cette dernière partie d'émission, c'est votre coup de cœur et votre coup de gueule. Alors on va commencer par le coup de gueule, vous aviez un petit peu le même l'un et l'autre. Et comme vous m'avez pas mis grand chose, je vais vous laisser vous lancer. Pour Alexis de la Rupelle, c'était la dérive du syndicalisme partisan, et pour Patrick de Persin, vous, c'était l'image du syndicalisme en France. On imagine que ça fait écho à mon introduction. Vous désolez d'une certaine forme ou d'une certaine dominance dans le syndicalisme français, Patrick de Persin. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ?
Alors oui, dans le grand public, le syndicalisme a une très mauvaise presse. Vous avez fait l'introduction là-dessus. Il y a plein de raisons à ça. Il y a des raisons qui sont internes. C'est que nous, syndicalistes, il faut qu'on évolue. Il faut qu'on change nos discours, qu'on soit plus... qu'on communique mieux. Ça, c'est sûr. Par contre, il faut aussi que la société y mette du sien. Quand, par exemple, les médias interrogent au pied d'une usine, quand il y a une grève, les syndicats, c'est toujours les mêmes syndicats révolutionnaires qui sont interrogés.
Vous voulez dire qu'ils sont choisis parce que ça passe mieux à la télé, c'est ça?
Parce que ça fait plus de buzz, ça fait plus de bruit. Et j'ai un exemple très récent où ils interrogeaient un syndicaliste d'un de ces syndicats révolutionnaires. Et ce syndicat représente 4% dans la société. C'est-à-dire qu'on prend...
La société française?
Non, dans la société qui était en crise. C'est presque du manque de professionnalisme d'interroger quelqu'un qui représente personne, ou 4%, dans l'entreprise... pour parler au nom donc
il y a... Alors quand Bernard Ribal tout à l'heure disait que grosso modo aujourd'hui la plupart des syndicats n'étaient plus étaient réformistes, est-ce que...
Alors la majorité des syndicats est réformiste maintenant, c'est une bonne chose. Je pense que les syndicats seraient impliqués beaucoup plus dans la gestion des entreprises, on en parlait tout à l'heure. Eh bien, ils seraient obligés d'être réformiste et obligé d'être partie prenante à la gestion d'entreprise.
Vous vouliez faire une comparaison avec l'Allemagne, je crois.
Exactement. En Allemagne, vous avez la codétermination. C'est un principe de gestion des entreprises où une décision importante de l'entreprise ne peut pas être prise sans l'accord du Betriebsrat, c'est le CE de là-bas. Eh bien, ça fait quoi? Ça fait que les syndicats allemands sont obligés de négocier avec le patronat allemand pour atteindre des décisions. On ne peut pas dire que...
C'est la fameuse co-gestion.
La co-gestion, la co-détermination. Et les décisions importantes sont prises donc en commun avec les représentants du personnel et la direction. Ça oblige les représentants du personnel à se mouiller et à prendre des décisions, même difficiles de temps en temps. Et ça oblige le patronat à une certaine, ou les dirigeants, à une certaine transparence vis-à-vis de leurs interlocuteurs. Et globalement, c'est positif.
Alexis de la Ruppel, votre réaction sur le syndicalisme, vous, on imagine que c'est un peu autour de cette thématique, vous vouliez réagir?
Alors moi, j'ai une histoire où j'étais cadre dans une entreprise. Aujourd'hui, je suis profession libérale, engagé dans une union professionnelle. Et je rejoins effectivement ces éléments-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai les salariés de ma propre structure, qui reste une structure, on n'est pas Airbus dans ma propre affaire, mais je suis toujours surpris de décisions qui sont prises effectivement avec un syndicat impliquant l'ensemble des salariés ayant une faible représentation au radical.
12% des salariés en France.
Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours assez surprenant, assez heurtant. Et effectivement, avec une dimension souvent politisée, on le voit, puisqu'on a même des syndicats qui prennent position sur des élections nationales. Ça aussi, c'est toujours... Un peu surprenant. Moi, j'ai noté tout à l'heure un point où la cloison devait être étanche entre le syndicalisme et la politique. Ça me semble très important pour avoir une finalité utile. Et ça, c'est toujours effectivement un peu agaçant. Est-ce que la solution, elle est effectivement un développement du syndicalisme pour avoir une vraie représentation et donc la meilleure façon de noyer un extrême, c'est de le rendre beaucoup plus représentatif. Et ça, c'est peut-être une des pistes de réflexion à venir.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur vos coups de gueule, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on entend beaucoup. Bernard Ribal, eu égard à vos années d'engagement dans le syndicalisme, ça ne doit pas être facile quand on a donné une partie de sa vie à cette cause, de voir le nombre de salariés syndiqués s'effriter. Est-ce qu'il peut y avoir une issue heureuse du syndicalisme en France? Est-ce que vous continuez à garder quelque espoir?
Il faut dire que les médias, comme elle le fait d'ailleurs sur d'autres sujets, les médias en rajoutent un peu, hein, parce que les syndicats français de salariés sont très mobilisateurs, au moins autant que dans les pays limitrophes.
Vous voulez dire qu'il y a peu de gens qui sont syndiqués, mais ils ont un fort pouvoir de mobilisation.
Un fort pouvoir de mobilisation, et que dans les élections professionnelles, la plupart du temps, le taux de participation est relativement élevé et n'a pas à rougir avec, par rapport aux élections politiques, par exemple. Donc, si en France, il y a très peu de syndiqués, c'est parce que l'adhésion à un syndicat ne donne aucun avantage. Il faut savoir que dans la plupart des pays d'Europe, en Allemagne, dans le pays scandinave, un accord ne s'applique qu'à ceux qui sont syndiqués, parce que les accords sont de droit privé. En France, ils sont de droit public, les accords, parce que l'État, par la loi, donne une extension à l'accord.
Alors juste pour tout à fait pour comprendre, dans une entreprise allemande, quand un accord est négocié entre syndicat et patronat, à la fin, ça ne s'applique qu'aux salariés qui sont syndiqués.
Voilà, voilà.
Et alors, les autres ?
Ça quand même. Et les autres, non, il n'y a pas d'application. Ce qui donne beaucoup d'encouragement à ce syndiqué quand même. Hein. Par exemple, il n'y a pas d'assurance chômage possible en Belgique si vous n'êtes pas adhérent à un syndicat. Vous n'avez pas de 13e mois en Allemagne. Si vous n'êtes pas adhérent à un syndicat.
Mais alors, si pour répondre à ma question, l'avenir du syndicalisme en France, quel serait-il ? Ça serait justement de changer tout simplement ce radicalement de modèle ou...
Déjà, je change légèrement de problématique pour répondre à votre question. Déjà, si le pouvoir politique, l'État, prenait en considération davantage les corps intermédiaires, et entre autres les syndicats, ça changerait un petit peu, quoi. Parce que depuis plusieurs quinquennats, le syndicalisme est marginalisé dans la vie politique, économique et sociale nationale. Alors, bon, il paraît qu'il y a des regrets maintenant et que ça devrait changer. Mais enfin, on ne voit pas trop quand même de signaux clairs montrant un changement radical.
Vous en parliez récemment, je crois que c'était l'émission la semaine dernière, sur les négociations sur l'assurance chômage, où l'État reprenait la main, ou peut-être en redire deux mots.
Oui. Ben, dans les élections, pas les élections, les négociations sur l'assurance chômage ont été très mal engagées, parce que ce que les gens savent peu, c'est que l'UNEDIC n'est que paritaire. L'État n'y est pas dans l'UNEDIC. Tous les trois ans, la convention UNEDIC qui fait que les chômeurs sont indemnisés est une convention signée entre les employeurs et les syndicats de salariés. Or là, l'État a donné une lettre de cadrage qu'il n'avait pas à donner, une lettre de cadrage qui n'a pas de légitimité, disant au patron, il faut le bonus-malus pour les CDD, quand ils sont trop nombreux, et disant au syndicat de salariés, il faut serrer la vis contre les chômeurs qui exagèrent en refusant des emplois qui leur sont proposés. Et du coup, l'élection a capoté. Alors que ces deux mesures avaient déjà été acceptées dans le passé. Puis, on était revenu en arrière parce qu'elles étaient moins efficaces que ce qu'on croyait. Mais on pouvait très bien se débrouiller nous-mêmes. Il y a eu cette lettre de cadrage et l'État en profite pour dire « Ah ben, puisque vous n'y arrivez pas, on va prendre la main ». Donc, loin de redonner des possibilités d'expression et de peser aux syndicats, on leur enlève encore un peu plus, ou on est en train, parce que je ne suis pas prophète et je ne lis pas dans le marc des cafés, on est en train de leur enlever un peu plus.
Patrick de Persin, pour finir.
Et en plus, on leur montre du doigt en disant qu'ils sont incapables de négocier.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire qu'on leur donne une mission impossible à remplir et ensuite on les condamne.
Exactement.
Voilà. Et c'est de fait ce qui ressort pas mal dans la presse, donc chacun doit pour le moment battre un peu sa coulpe. Eh bien, il n'y aurait eu que des coups de gueule aujourd'hui, mais peut-être était-ce nécessaire autour du syndicalisme. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour cette émission. Donc, vie d'entreprise et syndicalisme en partenariat avec les EDC, le MCC. Rendez-vous est donné le mois prochain. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.